C'est l'émission des apatrides anonymes du 27 février 2020, en direct des studios de Choc à l'UQAM. Simon à l'animation cette semaine. On est en compagnie de Marie-Ève. Salut Marie-Ève.
Salut Simon, salut tout le monde.
Et de Mathieu qui est à la console actuellement. Est-ce qu'il peut nous dire bonjour?
Bonjour.
Salut Mathieu. Au menu à l'émission cette semaine, des actualités nationales avec Marie-Ève, qui aura aussi plus tard un petit bloc spécial citation raciste. Là. Disons
oui.
qu'avec ce qu'on appelle la crise ferroviaire, ça excite quand même le jambon. Là. C'était fécond.
Ça excite
là.
Le jambon et ses ananas, oui, effectivement.
Oui, fait qu'on aurait pu faire une demi-heure de citations racistes. Donc, des actualités internationales, un segment africain avec Mathieu, une partie européenne avec moi-même et vers la fin de l'émission, le traditionnel agenda antiraciste. Évidemment, on aura aussi de la bonne musique pour vous. Nos coordonnées, avant de vraiment commencer l'émission, donc on peut être écouté en balado, évidemment, sur choc.ca ou sur apatridesanonymes.info. On peut être joint via notre page Facebook, Les Apatrides Anonymes, ou à Apatrides Anonymes, tout au pluriel, à resist.ca. Dans un très court instant, on va aller rejoindre Marie-Ève pour des actualités... Non, pas caquiste.
Non, je parle pas de la CAQ aujourd'hui.
Pas de Jolin Barrette
non,
cette semaine.
Non. Exit.
C'est plate.
Exit Jolin Barrette.
OK. Donc, on se dit à tout de suite.
Sur les ondes de choc.ca. Marie-Ève avec vous au micro pour ce premier bloc d'actualité. Pour aujourd'hui, est-ce qu'on aura autant des actualités là, de la scène fédérale que provinciale et locale? Donc, je commence avec la scène fédérale. En fait, comme la lutte des Wet'suwet'en a occupé l'avant-plan de l'actualité depuis au moins les trois dernières semaines, le recours collectif qui a été déposé par l'Assemblée des Premières Nations le 12 février dernier est passé plutôt inaperçu, donc je me suis dit que ce serait bien de revenir là-dessus. En fait, c'est le chef de l'APN, qui est Perry Bellegarde, qui a déposé une demande en recours collectif de non pas moins de 10 milliards de dollars afin d'obtenir justice et dédommagement d'Ottawa pour les milliers d'enfants autochtones et leurs familles qui ont été discriminées dans le système de protection de l'enfance, plus particulièrement les enfants qui vivent dans les réserves et au Yukon. Dans le communiqué publié à la suite du dépôt de la demande, Perry Bellegarde accuse le Canada de discrimination envers les enfants autochtones, plus particulièrement en sous-finançant les soins de prévention et en perpétuant le désavantage historique créé par les pensionnats autochtones. Je vais vous expliquer. C'est que la demande en recours collectif affirme notamment que le financement du gouvernement canadien a causé de la discrimination en créant au sein du système de protection de l'enfance une incitation perverse, en fait, à placer les enfants des Premières Nations hors de leur famille et de leur nation. De là, donc, l'accusation là, de dire que le gouvernement perpétue le désavantage historique, créé par les pensionnats autochtones. Donc, le Canada aurait ainsi manqué à sa responsabilité envers les enfants autochtones et enfreint leurs droits qui sont garantis dans la charte.
Avant que tu poursuives, juste savoir, tu disais que ça concerne surtout le Yukon ou l'ensemble des territoires et provinces au Canada?
C'est parce que c'est tous les enfants sur les réserves et les enfants qui sont au Yukon, parce qu'il n'y a pas nécessairement de réserve au Yukon.
OK, parfait.
C'est ça. Donc, par cette requête-là, l'APN souhaite obtenir compensation pour tous ceux et celles qui ont subi un préjudice dans le système de protection de l'enfance, comme je disais, mais y compris ceux qui sont pas couverts par la décision qui avait été rendue en septembre dernier par le Tribunal canadien des droits de la personne, là, t'sais, qui a condamné le Canada à verser des dizaines de milliers de dollars à chaque enfant des Premières Nations. Je pense que c'était 40 000 $ par enfant. Donc, à chaque enfant des Premières Nations qui a été placé dans le système de protection de l'enfance dans les réserves. Donc, la requête actuelle, donc, est séparée vraiment a rien à voir en fait avec la la décision du tribunal des droits de la personne. Mais cette décision-là, évidemment, bon, le gouvernement de Justin Trudeau la conteste toujours. En tout cas, certains détails de cette décision-là est contesté par le gouvernement de Justin Trudeau devant les tribunaux. La PN affirme d'ailleurs que les efforts destinés à mettre en œuvre ce jugement-là du Tribunal des droits de la personne, de même que la réforme du système de protection de l'enfance, vont se poursuivre, et ce, parallèlement au recours en action collective qui a été déposé. Donc, on va suivre ça, voir... les développements.
Oui, parce que c'est vrai, comme tu disais, les grands médias n'en ont que pour les effets économiques de certaines barrières, là, mais on a à peine parlé de cet énorme recours collectif.
Oui, c'est ça, 10 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Maintenant, on va passer à la ville de Montréal. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y a une coalition d'organismes montréalais accompagnée d'Ensemble Montréal qui a une fois de plus interpellé l'administration Plante sur le profilage racial. On a entendu beaucoup parlé depuis cet automne. Donc, ça, c'était lors d'une assemblée publique le 2 février. La coalition a demandé une nouvelle entente entre les communautés autochtones, entre la ville et les communautés autochtones, évidemment, ainsi qu'un projet pilote pour récolter des données sur les interpellations des personnes racisées par le service de police de Montréal et la Société de transport de Montréal, donc la STM.
Les genres de policiers de la STM.
Ouais, c'est ça. Donc, la coalition propose à la ville, en fait, de suivre l'exemple là, de Toronto et Halifax, où il existe une politique de récolte de données relatives à la race. Cette politique-là obligerait le SPVM à prendre note de la race des personnes interpellées lors des contrôles routiers, de routine et d'incidents au cours desquels la force a été employée. Et la politique demanderait également que l'on note la race des personnes arrêtées ou accusées. Cette demande-là survient un peu plus de 3 mois après la publication du rapport accablant sur les interpellations policières qui révélait que les groupes racisés, dont les personnes noires et les autochtones, étaient surreprésentés dans les données sur les interpellations de routine. Donc, face à ces résultats-là, le SPVM avait déclaré avoir besoin davantage de données pour comprendre l'ampleur du phénomène. Mais pour Lionel Pérez d'Ensemble Montréal, le SPVM cherche des excuses pour pas mettre en place des mesures pour contrer le profilage racial. Ici, je cite Jessica Quijano du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui, elle, va dans le même sens. Elle dit que ils disent qu'ils veulent des preuves, mais elles s'accumulent hors de tout doute. Elle affirme que le SPVM fait du déni quant au profilage racial. On se rappellera d'ailleurs que le SPVM lui préfère l'expression « biais systémique ».
Très poétique.
N'est-ce pas? Elle dit aussi que lorsque, comme elle, on voit ce qui se passe réellement sur le terrain, on n'a pas besoin de plus de données. Donc, la coalition a également demandé une nouvelle entente pour améliorer, comme je le disais, là, les relations avec entre le SPVM et les communautés autochtones. En 2015, il y avait une entente qui avait été conclue entre le SPVM et le réseau des communautaires là, autochtones de Montréal, puisque ça avait mené à la création d'un agent de liaison avec la communauté autochtone, ainsi qu'une table de consultation. Sauf que, même si elle reconnaît que, bon, les relations ont évolué de façon positive depuis l'entente, Jessica Quijano estime que cette entente-là doit être revue puisqu'elle comporte des problèmes structurels. La coalition demande aussi que la commission de la sécurité publique tienne une séance publique justement pour permettre aux personnes autochtones de se prononcer au sujet de leurs interactions avec la police, ce qui n'a jamais été fait. Jessica Quijano dit qu'on ne peut pas avoir une réconciliation ici à Montréal si les femmes autochtones ont 11 fois plus de chances de se faire interpeller que les membres des autres communautés. Également, l'Assemblée publique, petite précision peut-être, c'est que l'Assemblée publique a été organisée à l'initiative du conseiller d'arrondissement Marvin Rotran, qui avait demandé à la Ville en novembre dernier d'appliquer un moratoire immédiat sur les interpellations policières dans les rues de Montréal. Une motion dans ce sens-là avait été adoptée par la Ville. La Ville s'était à ce moment-là, engagé à mettre en place une nouvelle politique relative au contrôle de routine d'ici la fin du mois de mars de cette année. Donc là, on verra ce que ça donne. Mais le Centre de recherche Action, lui, Centre de recherche Action sur les relations raciales, estime, lui, que la Ville de Montréal devrait inclure la coalition dans l'élaboration de cette politique-là pour qu'elle puisse couvrir tous les angles du problème, là, parce que selon ce qu'on comprend, il n'y a pas eu de réelle consultation jusqu'à maintenant. Ensuite, là, on retourne sur la scène, pardon, sur la scène québécoise.
C'est fini pour le SPVM, là?
Yes.
Ah, j'avais des petits commentaires, là, comme les caméras corporelles, il me semble, ça continue à être revendiqué de plus en plus, là. Il y a un blocage, là, par rapport à ça.
Oui, ça, ça n'a pas bougé, ça non plus.
Puis sinon, plus un petit commentaire éditorial, les Lionel Pérez, Marvin Rotrain, ils ont été dans les partis au pouvoir depuis 850 ans à Montréal, ils n'ont jamais levé le petit doigt pour. Non. Enfin, bref.
Ben, maintenant qu'ils sont dans l'opposition.
OK, on s'en va au provincial.
Donc, sur la scène québécoise, au début du mois, l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal présentait les résultats d'une recherche financée par le gouvernement du Québec et qui porte sur la perception que la population québécoise a de l'extrémisme violent. C'est assez intéressant. La recherche a été effectuée par des sondages, des entretiens avec plus de 70 personnes radicalisées et avec des professionnels des médias. Tous les types d'extrémisme violent ont été considérés par les chercheurs. Et juste pour vous dire la période couverte, parce que alors que de jeunes Canadiens se joignaient au groupe armé État islamique en Syrie quand le projet de recherche est né, entre-temps, il y a eu aussi l'attentat de la Grande Mosquée de Québec et l'assaut au camion Bélier à Toronto qui ciblait des femmes, qui ont marqué le déroulement, là, qui ont teinté, si on veut, les résultats de la recherche. Mmh. On y apprend que la forme d'extrémisme violent qui inquiète le plus les Québécois, c'est
islamiste.
Oui, l'extrémisme islamique.
Ça me surprend.
Par exemple, un acte mené au nom d'une idéologie antiféministe est moins susceptible d'être associé à de l'extrémisme, au terrorisme et à l'endoctrinement qu'un acte identique dont on dit qu'il était commis au nom du Coran. Mm. L'enquête révèle aussi que les Québécois et Québécoises analysent les motivations d'une personne qui pose un acte d'extrémisme violent en fonction de son prénom. Donc, ils vont croire plus facilement qu'une personne au prénom arabe ou à consonance arabe agit par extrémisme, mais qu'une personne au prénom francophone agit à cause de problèmes de santé mentale.
Mais quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Rochon, là, on sait pas trop.
Là, on vient tout mêler. Mm. le type d'extrémisme violent redouté varie aussi en fonction du profil, évidemment, de chaque répondant, là, du sondage. Les femmes, par exemple, craignent davantage l'extrémisme anti-immigration que les hommes, okay. Alors que les hommes s'inquiètent plus des groupes d'extrême gauche que les femmes. Les chrétiens vont redouter plus l'extrémisme musulman que les autres groupes. Et les plus jeunes, eux, s'en font pour les mouvances anti-immigration, tandis que les plus vieux se préoccupent davantage des groupes d'extrême droite et des extrémismes environnementaux.
Un peu, dis-moi ce que tu lis, je vais te dire de quoi t'as peur, en gros, là, je pense.
Ben, c'est ça, là, j'y viens. Ces sondages nous apprennent aussi que la perception des gens varie selon les médias qu'ils consultent.
Ah, d'accord.
Donc, ceux et celles qui consultent Radio-Canada et la presse ont vu leurs inquiétudes par rapport à l'islamisme violent diminuer davantage que ceux qui lisent le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Mm-hmm. La perception de la menace représentée par l'extrémisme anti-immigrant a plus fortement augmenté chez les auditeurs et auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Canada que chez les journaux, que chez les lecteurs des journaux de Québécois. Et finalement, au cours de la même période, les craintes envers l'extrémisme de gauche, oui, c'est ça, parce que la période, le sondage, ça a été du printemps 2018 à l'hiver 2019. Donc, pendant cette période-là, les craintes envers l'extrême gauche ont davantage augmenté chez les lecteurs des deux journaux, là, de Québécois, tandis que chez les habitués de Radio-Canada, ils se sont mis davantage à s'inquiéter de l'extrême droite. Donc, c'est assez intéressant comme résultat de recherche, je trouve. Ça confirme.
C'est assez logique.
C'est assez logique. Ça confirme un peu, disons, les intuitions qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Mais ouais, c'est ça. Je trouvais ça assez intéressant.
Très intéressant. Merci, Marie-Ève. Donc, merci. Dans un très court instant, on va... Non, pas dans un très court instant. On s'en va en musique, là, avec une dame, Jenny Salgado. La pièce Spitwhite est dans un... Oui, court instant. Dans un 3 minutes, on accueille Mathieu en studio pour un premier segment international. Des apatrides anonymes, Simon au micro pour l'animation. C'était la pièce Spitwhite de Jenny Salgado. L'album paru en 2011 et Tu te suivras. Jenny Salgado fait partie des membres fondatrices du groupe Mosaïen. On accueille maintenant Mathieu en studio pour le premier segment international de l'émission.
Oui, monsieur.
On s'en va.
Ça a été un gros succès, cette pièce-là, en 2011, hein, d'ailleurs.
Je m'en rappelle pas tant que ça.
Oui, avec la vidéo et tout. Hein, ouais, c'est...
À l'époque de Musique Plus. Hein?
Oui, oui, par exemple. Oui. Et là, c'est YouTube maintenant. Oui.
Donc, on s'en va dans la région, plus spécifiquement du Sahel.
Oui, le Sahel, je vais vous dire dans quelques secondes, dans quelques instants, les différents pays qui le composent. C'est une région du nord-ouest de l'Afrique, surtout francophone, colonisée donc par les Français. Il se passe beaucoup de choses, là, puis on n'en entend pas beaucoup parler. On sait qu'il y a des, il y a de l'armée, des guérillas, la France est là, il y a des déplacés, mais plus que ça, là, j'ai essayé de trouver quelques articles qui en parlaient pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois là. Je prétends pas revenir à des années en arrière parce qu'il y a des origines complexes à tout ça. Une manchette qui m'a frappé au début février, c'est que le Mali passe le cap des 207 000 déplacés internes. Donc, c'est quand même beaucoup de gens pour un petit pays. C'est quelques millions de personnes. C'est considéré par le HCR comme la deuxième plus grande crise humanitaire là, dans le monde actuellement. Le Mali, le Burkina Faso, puis les pays autour. Là. Donc, on parle de la Syrie, du Venezuela, puis de cette région-là, là, on peut dire, au niveau des déplacés internes.
Qui restent dans, ça veut dire qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays.
De leur propre pays. Des fois, ils passent la frontière, mais évidemment, c'est des frontières assez indistinctes. Là, on s'entend, c'est pas gardé partout. Donc, le dernier rapport de la commission de mouvement de population, qui est malien, a sorti son rapport le 31 décembre pour sortir ce chiffre-là. On a dit, par exemple, qu'en décembre dernier, il y avait eu plus de 6 000 déplacés juste pour le mois de décembre dernier. Donc, ça continue et ça bouge beaucoup. On parle de la région du nord du Mali, les régions de Mopti, Gao et Ménaka, et évidemment la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. C'est là qu'il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de déplacements. Je vais vous expliquer plus qu'est-ce qu'il y en est tantôt. Donc, de janvier 2019 à janvier 2020, le nombre de déplacés passait de 120 000 à 207 000. Fait que ça a doublé. On a 100 000 personnes de plus de déplacés à l'intérieur du pays. Un autre rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a révélé qu'il y a 4,3 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire dans le pays. Hein, fait que là, les chiffres montent beaucoup. Une augmentation de 1,1 million par rapport à la même période l'an dernier.
Fait que c'est gigantesque.
C'est très gros. C'est un rapport qui a été publié le 27 janvier dernier. Pendant ce temps-là, au Burkina Faso voisin, qui compte actuellement 600 000 déplacés internes. Fait que là, on passe de 200 000 à 600 000 au Burkina.
Pour une population plus petite que celle du Mali, je crois.
Je crois. J'ai pas les chiffres, malheureusement, mais je pense. Mais c'est pas des grosses populations. C'est surtout du désert, ces pays-là, en particulier. Donc, le HCR a vraiment intervenu, là, au début février pour dire que c'était exceptionnel comme ampleur au niveau des besoins humanitaires. On a parlé d'une urgence humanitaire de grande ampleur, des gens qui ont pratiquement rien parce qu'ils partent rapidement parce qu'il y a des conflits. Donc, par exemple, dans la province du centre-nord du Burkina Faso, on parle de 28 000 abris supplémentaires qui sont nécessaires rapidement pour les déplacer. Donc, puis là, en plus, quand on fouille un peu, on se rend compte que les gens sont quand même hébergés par des parents, d'autres personnes. Il y a une tradition dans ces pays-là aussi de recevoir des gens qui sont déplacés, les accueillir, mais même à ça, ils ont besoin de beaucoup d'abris, donc supplémentaires. Peut-être vous dire qu'on parle des conflits entre groupes djihadistes, armée nationale, autres groupes, armée française, armée internationale, donc c'est assez complexe. Donc les gens se réfugient dans les villes du Nord, évidemment, parfois dans des camps, parce qu'il y a de plus en plus de camps aussi, et sont souvent accueillis par des communautés autres, comme je vous disais. Et là, les villes comme Ouagadougou ou Bamako deviennent de plus en plus grossissent à vue d'œil avec tous les réfugiés qui s'y retrouvent là, dans les derniers mois. Un exemple qu'on donne, en juillet dernier, il y a 605 personnes qui sont parties très rapidement d'une ville qui s'appelle Pazani, dans le nord du Burkina Faso. Leur village voisin avait déjà été attaqué par les djihadistes. Et c'est un exemple un peu particulier parce qu'on dit que l'été dernier, les djihadistes, entre guillemets, on va les définir tantôt, ont capturé et tué le prêtre catholique. Okay. C'était au printemps dernier. En avril, ils ont tué le pasteur avec 6 personnes. Et au Ramadan, ils ont tué l'imam et 13 personnes de son entourage. Donc, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. C'est un peu complexe quand même.
Des fois, il y a un peu d'animisme dans ces régions-là. Je ne sais pas s'ils ont tué aussi les responsables.
Ça, j'ai pas d'informations, mais il y a des groupes armés de toutes sortes, donc on peut comprendre les représailles. Donc, et récemment, donc le 25 janvier, ce même village-là de Silgadji, à côté de Pazani, a été réattaqué. Il y a eu 39 morts. Donc, on voit que ça vient, ça part. Et les gens qui pensaient être partis quelques semaines sont là depuis des mois, dans d'autres cas, depuis des années. Et ils savent pas du tout que ce qui va leur arriver, donc, éventuellement. Donc, ça, c'est la partie plus déplacée interne, si on veut comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. On va parler ici de France-Afrique, entre autres. C'est un peu inévitable. Crise humanitaire majeure, déplacée, évidemment. L'armée malienne est débordée, l'armée du Burkina Faso aussi. Donc, la France est toujours là pour veiller au grain, évidemment. L'opération Barkhane, que vous connaissez peut-être, qui est une opération européenne non officielle de l'Union européenne, mais qui regroupe des Britanniques, des Allemands, qui regroupe des Danois, des Espagnols, mais sous commandement français, qui existe depuis plusieurs années pour combattre officiellement les groupes djihadistes dans le Sahel. Donc, cette opération-là va être renforcée par une autre opération qui va s'appeler Takuba. Donc, vous suivrez ça. C'est un peu secret. Donc, il n'y a pas de détails pour l'instant. Donc, ça, c'est au niveau militaire. Vous donner une idée de ce qui se passe du côté européen. Il y a eu un sommet à Pau, en France, à la mi-janvier, organisé par Macron avec les 5 chefs d'État du Sahel. Là, je vous les nomme. Mali, Niger, Burkina, Tchad et Mauritanie. Pour renforcer la coopération militaire, économique, etc. Ça a été très mal reçu par plusieurs groupes en Afrique de la société civile, on peut dire. On parle d'ingérence, d'inefficacité, de climat de défiance. On parle de mise sous tutelle. On parle de réponse seulement militaire. On parle aussi de que la France continue à tout diriger ça, même si ça n'a pas vraiment d'effet positif pour les pays concernés. Et on a même créé une nouvelle entité qui s'appelle Coalition pour le Sahel, qui se rajoute donc à la Force Barkhane, à l'ONU, au G5 Sahel, aux armées nationales. Donc, ça fait juste rajouter un peu de confusion dans tout ça.
Mais j'ose espérer qu'il y avait aussi un genre de soutien logistique pour des abris, des médicaments.
Ça vient pas de l'Union européenne en général, ça vient de l'ONU plus ou de certains organismes, des ONG locales. Mais quand on parle de ces genres d'opérations-là, c'est vraiment militaire. Il y a de l'argent donné au gouvernement, j'imagine, pour le militaire, entre autres. Mais c'est sûr que c'est beaucoup ça la priorité. Voilà, fait qu'il y a eu ce sommet-là. Et l'ennemi officiel, il s'appelle le groupe État islamique au Grand Sahara. Ça, c'est le nouvel ennemi qui est évidemment issu de plein de coalitions, de différents groupes qui se sont mis ensemble et qui est de plus en plus officiellement identifié comme étant le méchant là, dans la région du Sahel. Ils attaquent des camps militaires, ils prennent les armes, ils attaquent les armées nationales. Entre le Mali, le Burkina et le Niger, l'espèce de les trois frontières, la région des trois frontières qu'ils appellent. Mais évidemment, ce groupe-là a profité de différents conflits locaux aussi, d'un sentiment de marginalisation de plusieurs populations victimes d'exactions de d'autres groupes. Faut dire aussi que les forces armées maliennes, entre autres, étaient associées pendant un bon bout de temps au groupe d'autodéfense Touareg, par exemple, et que là, ça s'est terminé, cette association-là, donc ça a favorisé, entre autres, des groupes plus djihadistes, on peut dire. Peut-être vous dire qu'en réponse à tout ça, la France a annoncé le 2 février dernier qu'elle a envoyé donc 600 soldats supplémentaires de la force Barkhane. Évidemment, c'était la solution. Il y a l'autre force dont je vous ai parlé tantôt, qu'on n'a pas trop de nouvelles, mais qui devrait se mettre en plein. Mais ça va être une force seulement de... Ça va être des forces spéciales des pays européens, non pas des soldats réguliers. Donc là, il faut être dans le gros stock, avec le gros canon, on peut dire. Donc... 600 hommes supplémentaires, on passe donc à 5000 soldats européens, donc, dans cette force Barkhane-là, qui est la réponse officielle de l'Europe à tout ce qui se passe. Puis peut-être vous dire aussi que le Tchad a décidé d'envoyer plus de militaires au Mali et au Burkina Faso.
Est-ce qu'il y a encore des civils ou tout le monde est militaire?
Non, il y a plein de civils. Il y a des groupes, des Touaregs qui se sont organisés en milice, etc. Et là, le Tchad envoie plus de... Et le gouvernement tchèque, envoie 60 soldats pour la nouvelle force Takuba. Donc, c'est particulier. Je voulais vous donner plusieurs informations pour vous permettre de comprendre, mais il faut retenir qu'il y a 200 000 déplacés au Mali, 600 000 au Burkina Faso, que l'ONU parle d'urgence humanitaire importante, deuxième ou troisième au monde. Et pendant ce temps-là, on parle d'envoyer plus de militaires du côté européen. Puis ces pays-là, on sait qu'ils sont dépendants beaucoup de l'Europe au niveau économique et autres. Donc, voilà un petit topo, mais si les gens veulent plus s'informer, il y a plein d'informations. Puis ça bouge beaucoup. C'est tous des articles dans les derniers 2-3 mois dont je vous ai parlé.
C'est peut-être plus payant politiquement pour les gouvernements occidentaux de dire on s'en va combattre le djihadisme que de dire on envoie du financement pour aider les ONG.
Pour les coopératives.
C'est ça, par exemple. Merci beaucoup d'avoir démystifié ça avec nous.
Ça fait plaisir.
On va continuer dans l'international dans quelques secondes. On va traverser la Méditerranée, aller en Europe. toujours Simon à l'animation et comme, non pas chroniqueur, je peux dire, comme segmentaire. De, en tout cas, on reste...
Tu prends le micro encore.
Ben oui, hein, je monopolise. on reste dans l'international, mais on change de continent, on s'en oui. va en Europe. Donc, deux nouvelles, une nouvelle espagnole, une nouvelle italienne. On commence par l'Espagne, toujours à l'émission des Apatrides anonymes. Tout d'abord, en fait, mes deux nouvelles, c'est deux décisions judiciaires assez importantes. Donc, tout d'abord, une décision judiciaire en Espagne qui est assez grave, qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme la semaine dernière, qui ouvre la porte aux expulsions collectives, pratique qui est actuellement formellement interdite par le droit européen, mais déjà pratiquée un peu de manière informelle en Hongrie, entre autres en France, avec la frontière avec l'Italie. Entre autres. Donc, en gros, c'était des organismes qui poursuivaient le gouvernement espagnol pour l'expulsion collective de deux migrants, un Ivoirien, un Malien, qui avaient fait l'objet d'une décision commune quant à leur renvoi d'une des deux enclaves espagnoles au Maroc, soit les enclaves de Melilla, je ne sais pas comment le prononcer, et de Ceuta, qui compte 85 000 habitants chacune. Petite parenthèse, un des articles que j'ai lu sur le sujet parle de ces deux enclaves comme des confettis de l'empire colonial sur le continent africain. Donc, je trouvais l'image assez juste.
Et on est en Afrique encore, si vous regardez.
Alors, oui, on est en Afrique. Oui. Administrativement, c'est l'Union européenne, mais on est sur le continent. Géologiquement, on est en Afrique. Oui, bien sûr. Bref, on pourrait dire, bon, seulement deux migrants pour une expulsion collective, c'est très peu, c'est pas très grave, mais bon, c'est le principe, que ce soit deux ou 40 migrants, il s'agit d'une expulsion collective puisqu'elle émane d'une seule et unique décision administrative et d'une seule et unique procédure de renvoi. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme vient valider, normaliser cette pratique-là à l'ensemble de l'Europe puisque ces enclaves espagnoles font partie du territoire européen. Ça fait jurisprudence, ça vient casser plusieurs décisions judiciaires qui ont été rendues dans les dernières années et qui rappelaient le caractère illégal des expulsions collectives. Caractère illégal qui est aussi rappelé par la Convention de Genève sur les réfugiés et d'autres conventions, toutes sortes de traités internationaux. Mais bon, on n'en est pas au premier accro avec des conventions quand il s'agit d'expulser. Le détail de la décision de la Cour est un peu confus. Je suis pas expert en droit des frontières, mais en gros, si je comprends bien, ça dit que les personnes migrantes tentent régulièrement de traverser les frontières de ces deux enclaves-là en groupe, de manière concertée et organisée, en ignorant les modes d'entrée réguliers, et qu'à partir de là, ben, il serait permis de juger l'ensemble d'un groupe comme une seule entité et de rendre une seule et même décision commune à tout le monde.
Ouais, je vois la portée, là. Ouais, ouais.
Ben, c'est une logique d'avocat, mais je suis pas sûr que ça va passer le test d'éventuels recours qui vont suivre, parce que ça, comme je disais, c'est en contravention avec toutes sortes de conventions. Donc, et en plus, ben, ça vient priver les personnes visées de leur droit à des évaluations personnelles de leur situation propre et ça les prive de droit à d'autres recours, comme à une évaluation avant renvoi, par exemple. Ça ouvre aussi la porte aux gardes frontières, aux militaires à procéder de façon sommaire, en refoulant directement à partir de la frontière sans même qu'une instance ait pu recevoir ou traiter une demande d'asile ou sans même être passée par un centre de rétention. Une interprétation donc plutôt inusitée de la loi qui va probablement faire l'objet d'appels et sûrement être renversée, je présume, parce que le reste de la jurisprudence, le reste des conventions, des lois est quand même très clair sur les expulsions collectives. Donc, on va essayer de suivre ça et de vous tenir au courant.
Peut-être dire pour que les gens se donnent une image dans leur tête, c'est on a souvent vu des images de personnes africaines ou d'Afrique qui prenaient des échelles pour monter par-dessus des clôtures dans ces deux enclaves-là espagnoles. Oui. Où il y a des barbelés et même des rasoirs, là, carrément, pour empêcher les gens de passer, des lames de rasoir. Mais leur entrée en force et en groupe, là, c'est prendre une échelle puis passer par-dessus la clôture. Fait qu'on s'entend que c'est pas des attaques au bazooka de la frontière.
Non, puis de toute façon, traverser ça seul, c'est à peu près impossible parce que, comme tu dis, ça prend un dispositif. Il y en a qui mettent des tapis par-dessus pour éviter de se blesser.
Les barbelés, puis tout ça, ouais.
Ça s'appelle ces clôtures-là, des concertinas, d'après ce que j'avais lu. Donc, oui, c'est des rasoirs, c'est carrément meurtrier. C'est parmi les murs les plus meurtrier au monde, ça devrait même pas être légal. Et c'est financé en bonne partie, je pense, c'est 100 millions par année par l'Union européenne, qui est donnée au gouvernement espagnol. Voilà, pour l'Espagne, on va aller en Italie. On va parler de... je sais pas si on peut l'appeler le Jolin Barrette européen.
Ben, c'est le fétiche à Marie-Ève, en tout cas, ça c'est sûr.
Ben, je pense que secrètement, il y a quelque chose de spécial. C'est monsieur Salvini.
Matteo.
Matteo Salvini. Donc, on reste dans le judiciaire, on reste en Europe, mais on change de pays. Qui est Salvini? Je vais quand même prendre le temps de le présenter. On le connaît ici à l'émission, mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. C'est un de nos préférés. On vous parle de lui souvent. Chef de la Ligue du Nord, homme fort de la forteresse Europe dans les dernières années. Ex-ministre italien, il avait cumulé des fonctions importantes aussi au niveau européen. Il a récemment été déchu de ses titres suite à une reconfiguration parlementaire dont le gouvernement italien a le secret. Il est un peu le prototype du populiste d'extrême droite en Europe. Il empile les frasques et les perles racistes. On pourrait faire un recueil de perles racistes de 1000 pages juste avec lui. Sa plus récente déclaration haineuse la semaine dernière, parce qu'il occupe toujours l'espace public, même s'il a été déchu de ses responsabilités, il disait que les femmes étrangères se servent des urgences comme des guichets automatiques pour se faire avorter en masse en raison d'un style de vie non civilisé.
Ah, bien sûr, ils ont inventé l'avortement, les femmes immigrantes, c'est
ouais, puis on sait que les pays d'où viennent ces femmes-là, l'avortement est très, très légal. Uno stile de vita in civile. Donc, merci pour mon italien.
Merci,
donc,
félicitations.
Des propos gratuits basés sur rien du tout qui ont laissé le milieu de la santé italien un peu pantois. Mm-hmm. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une nouvelle qui date de mi-février. Le Sénat italien a retiré à Salvini son immunité diplomatique ou parlementaire
ouais.
Et a autorisé son renvoi en justice. Il risque la prison pour avoir bloqué un bateau de migrants l'été dernier alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Mm-hmm. Plus exactement, il est accusé par un tribunal en Sicile de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir. Donc, pendant plusieurs jours, il avait bloqué l'autorisation d'accoster pour le navire des gardes-côtes italiens qui s'appelle le Gregoretti, où se trouvaient 116 migrants partis de Libye puis qui avaient été secourus en haute mer dans une situation un peu désespérée. Donc, il risque combien de temps? 15 ans de prison.
Ouais.
On n'en est pas encore là, évidemment. C'est un procès de première instance dans un petit tribunal régional dans le sud de l'Italie. On calcule que ça peut durer de 6 à 8 ans. Il a encore ses ambitions politiques. Là, il a utilisé plutôt une stratégie de se présenter en martyr de la justice politiquement correcte. Hein, ça nous rappelle le Québec.
Ouais. Les États-Unis aussi.
Puis
ouais.
Il rassemble encore des foules où on le présente comme le seul qui défend encore l'honneur et la pureté italienne. Donc, histoire à suivre, mais si à terme, il est condamné, ben il va être hors d'état de nuire, mais il va falloir que ça passe probablement par une genre de cour suprême italienne.
Non, mais la Cour européenne des droits de l'homme, c'est bon.
Ah, ben oui.
On fermait la boucle.
Il pourrait se réfugier dans un autre pays européen aussi.
Dans l'enclave de CETA, dans le sud de l'Espagne au Maroc.
Par exemple, donc avant de sabrer le Prosecco, on va attendre un petit peu. Donc, en gros, c'est ça pour nos deux segments internationaux.
On
avait le Sahel avec Mathieu, l'Espagne et l'Italie, deux décisions juridiques avec moi-même. Dans quelques instants, d'abord pour l'instant, on s'en va en musique avec le duo Coco Rosy, la pièce Smoke and Out, et Marie-Ève nous revient avec un bloc de citations racistes.
Shout. deep sound circles round. Slot of raging death, ice fall, hot house burned down. Foes upon foes, west to east it goes. The dead girl says, let's just be frank. In the glorious tone of marrow and bone, these days of ore, the chance we meet once more. The smoke, lightning, crack asunder. The boom of guns, the peal of thunder.
La pièce Smoke 'Em Out de Coco Rosie, c'est un featuring avec Anony, ça vient de l'album Smoke 'Em Out, sorti en 2017. Donc Marie-Ève me disait que Smoke 'Em Out, c'est dans le sens, puis t'avais lu aussi sur cette pièce-là en particulier, donc c'est gazer un peu des populations, comme on le fait pour des rats ou de la vermine.
Ouais, c'est ça, envoyer de la fumée pour les faire sortir, tu sais, pour les faire étouffer, puis tout ça, mm-hmm. comme pour la vermine, mais donc cette chanson-là est un peu en hommage à toutes ces populations, que ce soit des populations pauvres ou tout ça, mais qu'on chasse de lieux, soit de quartier ou de... Voilà.
Intéressant. Donc, c'est de Coco Rosie, qui est un duo deux sœurs américaines actives depuis les années début des années 2000. Et ils ont un album à paraître en mars prochain qui va s'appeler Put the Shine On. Donc, Marie-Ève, t'es en studio avec nous pour le segment que j'attendais avec beaucoup d'impatience. On va rire, mais on va rire jaune aussi. Donc, non pas une citation raciste comme on fait souvent, mais un bloc complet cette semaine.
Je vous ai concocté un petit florilège, là, parce que même si la lutte des Wet'suwet'en contre le pipeline Coastal GasLink est pour la défense de leur territoire soulève une vague, j'oserais dire, sans précédent de solidarité partout au pays. Elle a également suscité son lot de commentaires racistes envers les Autochtones.
Pas lire les commentaires sous les sites de nouvelles.
Non, mais c'est même pas les commentaires d'auditeurs ou de lecteurs, là. Certains commentaires relèvent, bon, plus de l'ignorance crasse, voire de la mauvaise foi et de la désinformation, comme ceux de Mathieu Bock-Côté, par exemple, dans sa chronique du 22 février dans le Journal de Montréal.
Ah bon?
Où il écrit que, je cite, « Cette crise née en Colombie-Britannique, fondamentalement, ne nous concerne pas et nous y sommes entraînés malgré nous. » Voilà. Selon lui, j'ouvre les guillemets toujours, le Québec paie encore une fois le prix de son indépendance, de son appartenance au Canada, et le Canada anglais et le Québec n'ont pas le même rapport aux populations amérindiennes. Bock-Côté ressasse donc l'éternel cliché selon lequel c'est le Canada le méchant parce qu'il a créé les réserves, alors que le Québec, lui, a toujours eu de bonnes relations avec les Autochtones.
À preuve, l'entente que Legault a reconduit avec... En tout cas,
bref. Ben, non, mais exactement, il parle de cette entente-là avec les cris, justement, à preuve ça.
Je raisonne comme Bock-Côté.
Mais il donne cette preuve récente, mais il donne des preuves historiques, évidemment, en disant la paix des braves de Bernard Landry, la reconnaissance des peuples autochtones par René Lévesque et la convention de l'abbé James de Robert Bourassa. Donc, écoute, les réserves en boîte de compétences fédérales, quand même, rien n'empêche le Québec de fournir de l'eau potable là, aux communautés qui se trouvent dans la province puis qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mmh. Puis, à ce que je sache, la SQ est de compétences provinciales, là, donc c'est cela. Il y a aussi notre deuxième raciste en chef, Denise Bombardier, dans sa chronique du même journal et publiée le même jour, qui jette le blâme de la crise actuelle sur les Autochtones parce que, selon elle, et j'ouvre les guillemets, « les Premières Nations possèdent un pouvoir sur nous, les Blancs, celui de nous culpabiliser en toutes circonstances, un pouvoir de nuisance également qu'ils exercent au gré des crises qui nous transforment en adversaires dans des guerres larvées comme celle d'Oka » ou comme celle d'aujourd'hui, et qui laisse des traces et brouille nos tentatives de communiquer, à défaut de quoi les préjugés s'amplifient. »
Elle va de mieux en mieux, cette chère Denise.
J'en suis essoufflée. Écoute, comme si c'était pas ses propos à elle et ceux de ses confrères chroniqueurs qui alimentent les préjugés, tu sais. Parce que oui, la palme des commentaires racistes des derniers jours dans ce dossier revient sans conteste à Luc Lavoie, ce soi-disant commentateur politique qui sévit maintenant sur les ondes du 90 18-9 Montréal. Le 16 février, à l'émission Drainville PM, il a suggéré d'opter, mesdames et messieurs, pour un coup de pistolet entre les yeux des manifestants autochtones qui bloquent les chemins de fer. Je le cite, « un coup de 45 entre les deux yeux, tu réveilles mon homme ou tu t'endors pour longtemps. »
C'est violent, hein?
Ben, écoutez, même si son employeur, OK, Cogeco Média, a confirmé avoir l'intention de discuter de cet incident avec Luc Lavoie, parce qu'il faut croire qu'on n'a pas les mêmes notions de ce qui est violent ou pas, il s'est quand même, son employeur s'est quand même borné à minimiser la violence de ses propos. Selon Christine Dicker, qui est directrice principale communication et marketing, ce n'était pas des propos qui étaient violents. C'était plus maladroit. L'extrait, en fait, est pris vraiment hors contexte. C'est maladroit, on le consent. Ce n'était pas la meilleure figure, la meilleure façon de s'exprimer de M. Lavoie, mais il l'a utilisé pour montrer la différence entre l'armement du CN et des Mohawks.
Ah bon?
De quel armement des Mohawks parle-t-elle?
Celui que Legault, celui dont il nous a parlé aujourd'hui?
En fait, il parle de la différence entre l'armement de la police du CN versus l'armement qui pourrait y avoir de l'autre côté, a-t-elle répondu. Et en terminant, ce n'était pas dirigé contre personne. Ça ne se voulait pas violent contre personne. Ben non, OK, excusez, on avait mal compris. J'imagine que l'Assemblée aussi, que l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, elle aussi a mal compris parce qu'elle envisage de porter plainte contre contre l'analyste Luc Lavoie. Peut-être qu'on devrait suggérer à Luc Lavoie de postuler au Figaro, hein, au Figaro français, qui publiait le même jour que les propos du chroniqueur un article signé Ludovic Hirtzmann, qui multiplie les clichés racistes dignes de la belle époque de la colonisation. L'article en question s'ouvrait ainsi. « Les redoutables Mohawks ont déterré la hache de guerre partout au Canada par solidarité avec la petite tribu Wet'suwet'en de Colombie-Britannique. » Et un peu plus loin, « les guerriers aux Mohawks ont érigé des barricades sur les rails des chemins de fer du pays. »
À chaque mot, il y a quelque chose qui cloche à peu près.
J'en reviens pas. Donc, je pense que Luc Lavoie aurait une belle tribune au Figaro.
On lui donne la panne de l'idiot de la semaine. Donc, merci Marie-Ève. Ça nous prend d'autres blocs comme ça lors des prochaines émissions. Et on revient avec l'agenda antiraciste dans quelques instants. Mathieu, tu as plusieurs activités à nous proposer dans le cadre de l'agenda antiraciste.
Oui, je l'ai pas dit au début, je te l'ai pas dit pour ton animation, mais c'est un spécial un peu autour du 8 mars qui s'en vient quand même dans à peu près une semaine.
Parfait.
La Journée internationale des femmes. Je voulais vous parler entre autres du festival Filministe, qui est un festival, comme on peut s'en douter, qui est spécialisé dans les documentaires et films de fiction sur les enjeux féministes, qui a lieu donc pas cette fin de semaine-ci. Dans le fond, oui, à partir de à partir de la semaine prochaine. C'est un festival qui existe depuis quelques années, organisé par plusieurs femmes autour, entre autres, de l'UQAM. La soirée d'ouverture est intéressante. La thématique, c'est disparition des femmes et des filles autochtones. Donc, on continue à parler un peu du même sujet. Et projection d'un film s'appelle Rustique Oracle de Sonia Bonspiel-Boileau, qui est un film de fiction fait par une équipe à majorité autochtone sur un féminicide qui repose sur, évidemment, les enjeux de racisme systémique avec les autochtones. Mais on parle d'une histoire de fiction racontée du point de vue autochtone. Donc, c'est quand même intéressant comme approche. Il y aura aussi le court-métrage qui s'appelle Kadjatchouk Kangi Surmi, Chant de gorge à Kangi Surk, de Eva Kokai et Manon Chamberlain. Et peut-être vous dire aussi qu'il y aura une discussion aussi avec les réalisatrices et d'autres invités. Donc, ce soir-là, c'est le 4 mars 19h30 au Théâtre Plaza sous la rue Saint-Hubert. Et le même soir, c'est la soirée d'ouverture du festival de films filministes. Ça se passe au bar Le Nestor qui est à côté sous la rue Saint-Hubert. Et c'est un show bénéfice pour en appui avec la lutte Wet'suwet'en. Donc, tous les fonds amassés iront au fond légal du camp Unistoten avec des artistes autochtones. Nina Segalovitz, qui est une artiste multidisciplinaire des territoires du Nord-Ouest. Canaan Pinette Fontaine, qui est une auteure, compositeur, interprète de Ouachat Manotelam. Et DJ Poppet, qui est une DJ de Karawage, et DJ Bleu aussi, qui est une autre DJ, avec projection de films, d'images, d'artisanat, de vente d'artisanat, donc une soirée vraiment de solidarité. Toujours le 4 mars, donc à 22h, après la soirée d'ouverture avec le film Rustique Oracle. Et peut-être vous dire aussi que la soirée de clôture du festival, c'est sous le thème Femmes et dissidences politiques, toujours au Théâtre Plaza, toujours autour de 19h. C'est le film Torre das Donzelas de Suzanne Lira, film du Brésil, première québécoise, film de 2019. Donc, un film qui fait une réflexion sur l'histoire de la dissidence politique au féminin, qui part des années 70 au Brésil, avec les femmes qui étaient impliquées dans les groupes armés qui combattaient la dictature au Brésil. Plusieurs ont été emprisonnées, torturées. Et donc, on retrace leur histoire. Il y a des survivantes là-dedans. On présente les stratégies de lutte qu'ils avaient adoptées à l'époque. Et on se demande 50 ans plus tard, que reste-t-il des revendications de cette époque dans le contexte de la prise de pouvoir par l'extrême droite au Brésil et quelles leçons gardées et quelles revendications politiques portées par une forme de sororité peut rester dans le contexte actuel. Donc, ça, c'est entre autres quelques films. Il y en a beaucoup plus que ça. Ça dure donc du 4 au 8. Festival Filminicite. .com, si vous voulez plus d'informations sur ce festival. Peut-être vous dire qu'il y a la marche annuelle pour la journée, le 8 mars, évidemment organisée par femmes de diverses origines. C'est le 8 mars, 13h, au Carré Cabot, donc métro Atwater. Cette année, c'est en lien avec... c'est pas compliqué. C'est en solidarité avec toutes les femmes qui luttent dans le monde, avec toutes les luttes qu'il y a actuellement. Donc, on dit que les femmes sont en première ligne dans un nombre sans précédent de mouvements populaires. On parle des matriages de l'île de la Tortue, entre autres à Wet'suwet'en. On parle des femmes du Chili, qui dénoncent les auteurs de la violence systémique contre elles, perpétrée par l'armée et le gouvernement. Les femmes palestiniennes sont toujours au cœur de la résistance contre l'occupation. Les femmes haïtiennes qui ont beaucoup milité aussi au niveau de ce qui se passe dans les manifestations haïtiennes. Les femmes iraniennes qu'on a vu beaucoup aussi réprimées par le régime intégriste en Iran. Et en Inde, évidemment, les militantes féministes qui luttent contre le fascisme ethno-nationaliste du BJP et de M. Modi. Donc, en solidarité donc avec des femmes un peu partout dans le monde qui se battent, et évidemment aux États-Unis, en Amérique latine. Donc, la thématique, c'est pas en notre nom. Et c'est donc Femmes du monde debout, la manif de femmes de diverses origines, le 8 mars à 13h au Carré Cabot. Est-ce qu'il me reste 30 secondes, Simon?
30 secondes, pas plus.
Exposition à la Galerie Articule, une artiste mexicaine qui s'inspire de l'imaginaire zapatiste, mais les militantes féminines et féministes du mouvement zapatiste. Donc, c'est jusqu'au 8 mars à la Galerie Articule sur la rue Fairmont à Montréal. Et ça s'appelle « When the mountains move ». Voilà.
Donc, beaucoup d'activités en lien avec le féminisme qui est de plus en plus nécessaire à plusieurs endroits dans le monde. Donc, on va aller quelques notes de musique pour aboutir vers le mot de la fin, déjà. Donc, ben, merci Mathieu pour l'agenda, toutes des activités très pertinentes. Donc, c'est déjà merci. Terminé pour cette 21e émission des Apatrides Anonymes. J'en profite pour vous laisser à nouveau nos coordonnées. Donc, on peut nous écouter en balado sur choc.ca, dans notre site web sur apatridesanonymes.info. On peut nous écrire sur apatridesanonymes@resist.ca ou via Facebook où on a une page où on essaie de mettre le maximum d'informations complémentaires. La prochaine émission aura lieu en direct des studios de Choc le jeudi 6 mars à 18h30. Le programme n'est pas encore déterminé. On ne sait pas si on aura un invité ou non, mais l'actualité, de toute façon, est toujours très,
très foisonnante.
Foisonnante, le meilleur mot. Donc, on va se laisser avec une nouveauté. C'est la pièce qui s'appelle Sacred Mountain du band stoner montréalais Uburu. Je ne sais pas si je prononce correctement. Là.
Uburubu.
Uburubu.
Okay. C'est un nouveau groupe qui fait fureur là, sur la scène alternative actuellement montréalaise.
D'accord, ça vient tout juste de sortir en janvier 2020. C'est un album éponyme sur Motlin Records. Donc, merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Simon, pour l'animation.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Oui, merci à toi, Simon. Et merci à vous deux, chers comparses.
Et ben, à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, c'était Simon au micro des Apatrides Anonymes. Bonne soirée et à dans deux semaines.